Cette campagne, bonjour. Nous sommes toujours dans le Loir-et-Cher, numéro 41, chez les Loir-et-Chériennes et les Loir-et-Chériens, c'est un peu long à dire. Saluons le département qui a créé une plateforme de mise en relation des bénéficiaires du RSA avec les entreprises. Voilà une bonne initiative, elle s'appelle tout simplement Job 41, lancée depuis 2016 dans un plan d'action de retour à l'emploi. Ce service apparemment porte ses fruits puisque déjà 600 entreprises et recruteurs ont publié des offres, soit 1200 postes à pourvoir, 3000 allocataires du RSA se sont inscrits à cette plateforme. Et 7 recrutements solides ont lieu chaque semaine, je dis bien chaque semaine. Pour en profiter, lorsque l'on est en quête d'un emploi, il suffit de déposer son CV et l'algorithme croise le profil à l'offre adéquate. Je ne vais pas vanter le mérite de l'algorithmique, je ne sais pas si on dit comme ça, mais c'est pas grave, qui ne fait pas tout. D'ailleurs, le candidat qui ne possède pas les compétences requises par l'offre d'emploi se verra orienté vers une formation préalable à son embauche. Preuve que ce service innovant est un atout de plus dans l'insertion, plus de 30 conseils départementaux se sont manifestés pour tester l'outil. À vous de le faire. Le site, c'est très simple, c'est job41.fr. Il paraîtrait que les JIC font peur. Être JIC ou ne pas être JIC. Ce terme dérivé de langue européenne pour atterrir aux États-Unis qui désigne les passionnés d'univers fantastique, de jeux de rôle, de pratiques numériques, est revenu à son point de départ en Europe par un phénomène d'engouement populaire. Le phénomène d'ailleurs est tel qu'il a son festival à la Serre-sur-Cher. Naya Bié va nous présenter cet événement international. Et puis, direction Thoré-La Rochette, village rural qui profite d'artistes regroupés dans l'association Remue Ménage, dirigée par notre seconde invitée, Jessica Dutour.
France Inter. Carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Naya Bié, bonjour.
Bonjour.
Naya, je suis ravi de pouvoir mettre enfin une voix et un nom sur une des organisatrices des Geek Ferries. Alors, a priori, il y a beaucoup de monde qui adhère aux univers fantastiques développés par les geeks. Ça peut être de la culture de l'imaginaire et pas uniquement par le numérique. Ça peut tenir des jeux de rôle, de l'invention. Mais lorsque vous avez lancé l'idée en 2010, ça passait pas très bien auprès des autorités, des institutions et d'un certain public.
Oui, c'est assez rigolo, mais geek est un mot péjoratif. Et donc, évidemment, comme souvent, les mots péjoratifs qui sont donnés à des groupes de jeunes, ils finissent par être absorbés et puis les jeunes commencent à vieillir. Et donc, du coup, ils se mettent aussi à avoir la possibilité de faire des choses. Et puis voilà, comme tout s'enclenche comme ça.
Ouais. Je passe sur le détail des années où vous avez tenté d'implanter le festival, puisque c'est d'abord un rendez-vous festivalier. À la veille d'une des éditions, vous avez été menacé par les autorités, donc vous avez été obligé d'annuler l'événement une semaine avant. Vous avez lancé une pétition qui a cumulé plus de 18 000 signatures.
Oui, c'est même pas nous qui l'avons lancé en fait. Nous, on était complètement abattus, sans pouvoir se défendre, sans pouvoir même accuser, sans... Et en fait, c'est notre communauté, c'est les participants du festival qui ont dit « Allez, on fait quelque chose. » J'ai un invité qui m'a dit « Si vous ne faites pas un crowdfunding pour remonter l'association, je le fais à votre place. » La pétition s'est montée sans nous, il y en a eu plusieurs. Et voilà, puis évidemment, on a arrêté très vite parce que nous, on n'avait pas envie d'être polémique, on voulait juste que le festival ait lieu.
Ouais. Alors, heureusement, vous avez trouvé un point de chute au château de Selles-sur-Cher depuis 2014, après avoir rencontré le propriétaire. La première édition a été un grand succès. Il se passe quoi, donc, pendant ce week-end des Geek Ferries dans la réalité, puisqu'il y a aussi la version sur le web qui vient de se terminer, qui a eu lieu au mois de janvier dernier. Qu'est-ce qui se passe pendant... ça dure 2 jours, hein, c'est ça?
Ça commence le vendredi soir, c'est fini le dimanche. Donc, en fait, quand on l'a monté, c'était entre créateurs, notamment de fanzines, c'est-à-dire c'est ces petits trucs qu'on imprime nous-mêmes, oui, avec des photocopies qu'on présente dans des petits événements, etc. Et on s'est dit, si on se faisait quelque chose qui nous servirait de lieu presque professionnel pour qu'un musicien puisse rencontrer un illustrateur, pour qu'une créatrice de costumes rencontre un créateur d'histoire. Mmh. Voilà, c'était ça. Et puis le fait de partager avec le public, et puis voilà, on a fait faire une grande salade avec tout le monde. Et donc, en fait, on s'appuie sur la culture Internet qui a quand même ses valeurs très, très fortes auxquelles on tient beaucoup.
Ouais.
Et voilà, on passe un bon moment.
Alors, vous jouez sur la différence temporelle entre l'histoire du château et la modernité du matériel que vous utilisez.
Oui, tout à fait. C'est ça qui est assez marrant. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a énormément de technologies, mais on est sous des tentes de réception. Mais l'important, c'est de parler, en fait. C'est d'échanger. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, beaucoup d'informaticiens, beaucoup de codeurs de jeux vidéo, de logiciels. Ils n'ont pas besoin de leur ordinateur, en fait. Ils viennent discuter de profession. C'est vrai que c'est un grand rendez-vous dehors. Et ce château a eu suffisamment de surface pour nous offrir cette possibilité.
Et prochaine Geek Ferris, c'est du 1er au 3 juin de cette année. On me dit que les geeks attendent parfois une année entière avant d'y participer, tellement c'est un événement. Combien de personnes viennent chez vous ?
C'est soumis à la météo, beaucoup. Et puis, il y a un public local de curieux. Et puis, il y a un public de fans. Donc, c'est à peu près 50-50. Donc, du coup, on reçoit entre 5 et 10 000 personnes.
Ouais.
Au plus loin, on a des gens qui viennent tous les ans du Québec, de Nouvelle-Zélande. On a beaucoup d'Anglais, beaucoup de Belges, beaucoup de Suisses.
Et c'est le premier festival de ce genre en France. Mais alors, si vous dépassez la jauge, parce qu'entre 5 et 10 000 personnes, je pense que ça va s'amplifier, vous allez être obligé de changer de lieu ou de vous démultiplier ?
On s'est déjà démultiplié avec cet événement qui a lieu en janvier, ce qui nous permet de recevoir énormément de gens en interview. Non, on a effectivement de réelles difficultés de structure, notamment au niveau hébergement. On a aussi des difficultés de compréhension. Il y a des fois des choses qui sont simples, qui deviennent insurmontables.
Oui.
Maintenant, on a des grandes entreprises qui vont participer à ce festival. Je pense notamment à VLC, par exemple. Vous savez, le lecteur vidéo avec le petit cône.
Oui.
Voilà, on a des entreprises de cette ampleur qui nous disent « Mais oui, non, on va participer à votre festival. » Et puis, par ailleurs, on doit se battre parce qu'au final, on dit « Ah ben non, on a accepté de vous prêter des chaises, mais on ne va pas vous les prêter. » Et puis, vous savez, ça va changer, ça. Et c'est vrai que c'est compliqué.
Bon, on fait appel à toutes les bonnes volontés, les communes, les partenaires potentiels, les bénévoles qui veulent participer à cet événement. C'est geekferris.fr pour l'adresse et vous allez voir le programme et déjà les dates du prochain festival du 1er au 3 juin. Merci Naya.
Merci beaucoup. Au revoir.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Un succès phénoménal, c'est ainsi que nos confrères du Petit Vendômois, un mensuel gratuit qui depuis 30 ans distille ses informations au pays vendômois, présentait la troisième édition d'un livre de mémoire d'un ancien aviateur britannique de la Deuxième Guerre mondiale, Raymond Vowell. Son livre Escape from France, traduit sous le titre de Exfiltré de France, est le récit incroyable d'aviateurs alliés hébergés durant 3 mois de l'été 44 dans un camp en forêt de Fredval, près de Vendôme. Grâce au réseau de résistants, 152 aviateurs furent ainsi accueillis et les 152 purent être exfiltrés vers l'Angleterre sains et saufs en passant par l'Espagne afin d'éviter les troupes allemandes. Le projet de ce camp d'hébergement fut donc le résultat d'une coordination entre la résistance locale et les services de renseignement britanniques. L'histoire peu connue en dehors de la région nous est rapportée par Bill Fisher. Merci Bill. Thank you very much. Je fais des efforts. Correspondant britannique installé en Loire-et-Cher depuis quelques années. C'est à l'occasion d'une rencontre avec le survivant de cette page d'histoire et auteur du récit que Bill a proposé une traduction française et une réédition de cet ouvrage. À 93 ans, puisqu'il est toujours vivant, Raymond Vowell était récemment au pays vendômois pour signer son livre. En parallèle, une association s'est constituée en 1996 sous le nom de Forced Landing pour collecter tout type d'informations possibles au profit d'une mémoire des pilotes et hommes d'équipage alliés de 1939 à 1945. Elle a rédigé un dossier consacré à cette page heureuse de ces aviateurs libérés en pays vendômois. Vous allez trouver à nos pages d'émission sur franceinter.fr et à notre page d'émission sur Facebook le lien avec ce témoignage. Et puis la page aussi du Petit Vendômois qui rappelle donc la publication 3e édition des Exfiltrés de France qui va apparaître sur nos pages d'émission. Jessica Dutour, bonjour.
Bonjour.
Jessica, directrice de l'association Remue Ménage. Vous êtes d'abord artiste, marionnettiste au sein de la Fabrica Chimère, qui est une jeune compagnie de marionnettes et de théâtre qui est en résidence. Donc dans ce lieu que vous avez installé à Torré-la-Rochette, c'est un village entre Vendôme et Montoire, village que vous avez investi entre autres en prenant l'ancienne épicerie du village.
Oui, c'est ça. Donc, on a investi l'ancienne épicerie dans laquelle on a installé un petit théâtre d'une cinquantaine de places avec des ateliers qui nous permettent de créer nos décors, nos marionnettes et d'y proposer un certain nombre d'ateliers, de cours, de stages.
Mais c'est un scandale. À Torré-la-Rochette, 960 habitants, il n'y a donc plus d'épicerie.
Si, bien sûr que si. Ah. C'est un chouette projet d'épicerie solidaire qui se crée. Nous ne sommes pas du tout en concurrence avec la nouvelle épicerie. Ouais.
Dites-moi, parce que là, c'est une confidence que vous nous avez faite. Votre maman était à l'origine de la première version de l'association créée en 2001. Vous l'avez suivie. Vous auriez pu faire carrière ailleurs. Vous vous installez dans une grande ville. Pourquoi être restée à Torré-la-Rochette?
Alors bon, je suis revenue à Torré-la-Rochette hein, parce que en 2001, bon, j'étais dans le coin quand l'association s'est créée. Bon, j'étais plus jeune, hein. Mais quand ça s'est développé et que vers 2011-2012, il a commencé à avoir une sorte d'effervescence autour du développement de ce théâtre, en fait. Il se trouve être dans la maison, en fait, de mes parents.
Oui, d'accord.
Voilà. Oui. Et ben, ça s'est vraiment posé très clairement pour moi de sauter dans le bain d'une aventure aussi familiale. C'était très, très logique dans mon parcours. Voilà. Oui.
Alors, il y a le théâtre de poche depuis 2008. Vous avez aussi investi les anciens appartements de l'épicier.
Voilà, quand je disais des ateliers de confection et de fabrication, ce sont dans les anciens appartements de l'épicier.
Oui.
Et qui concernait la réserve de l'épicerie, devient maintenant notre régie de costumes. On a plus de 400 costumes, accessoires de théâtre qui nous servent pour nos cours, nos événements, toutes ces choses-là. Voilà.
De la résidence depuis 2016 et puis bientôt un café associatif. Et alors, vous préparez un projet qui va s'appeler Gare et Regard. Vous pouvez nous en dire deux mots?
Alors, Gare et Regard, c'est venu d'une idée qu'on a vue circuler sur Internet de quelque chose qui s'était passé en Allemagne avec un spectacle qui se jouait à l'extérieur d'un train régulier. Et on s'est dit qu'avec le petit train touristique de la vallée du Loir qui part de Torré-la-Rochette et qui va jusqu'à Troyes, il y avait vraiment la possibilité d'embarquer des artistes en land art, en théâtre, en marionnettes, en danse, et de faire quelque chose sortant de l'ordinaire, en fait. C'est un spectacle sur 19 kilomètres, avec des points de vue différents, avec des façons d'appréhender le paysage d'une manière décalée. On pense à des marionnettes géantes, par exemple. On pense permettre à ce public qui ne prendront pas un billet de théâtre, mais un billet pour rentrer dans un train, de se représenter cette vallée du Loir d'une manière différente. Pointer un détail qui aurait échappé à un œil non initié, c'est le propre de l'artiste. Pour nous, c'est aussi notre envie.
Très juste. Voilà. Et vous avez prévu donc une date de lancement de l'opération. Est-ce que c'est une opération qui va se reproduire pendant l'été ou c'est une seule journée?
Alors, pour le moment, elle a été pensée que pour une seule date, le 28 juillet, avec quatre représentations. Et avec éventuellement la possibilité de reconduire les années suivantes pour en faire un événement récurrent.
Voilà, et ça va remuer le paysage grâce à Remue Ménage et puis aussi les esprits pour voir le pays autrement à travers les propositions culturelles très peu conventionnelles, hein, très atypiques. Et c'est bien, ça fait partie de l'animation et d'une dynamique économique, culturelle et sociale associative qui est bien en route. RemueMénage.org. Et puis, il y a un appel à participation. Alors là, c'est de la participation pour que des artistes d'autres régions puissent se joindre à vous.
Oui, oui, bien sûr, si d'autres artistes ont envie de sauter dans le train avec nous, pas de problème, on est très ouverts.
Alors les amis, n'hésitez pas à monter dans le train en marche avec Remue Ménage, donc le site c'est remueménage.org. Merci Jessica.
Merci beaucoup, bonne journée.
La semaine prochaine, nous serons dans le Var, mais je tiens à signaler que la mi-mars, nous serons dans le département de la Charente, avant d'aborder la Haute-Vienne. N'hésitez pas à nous écrire depuis ces départements Charente, Haute-Vienne et début avril, la Dordogne et le département de l'Aude.